Bonjour à tous.
Comme vous vous en doutez, si je parle, c'est que nous avons un petit problème avec la reprise du podcast de Netzgeviter. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Thomas et moi qui travaillons sur le podcast de Netzgeviter, sommes très occupés par la production du supplément France des Ombres et les différents bonus qui vont avec, comme le bazar de l'Hexagone. Et nous avons pris beaucoup de retard sur le mix et la préparation de l'émission. Du coup, nous allons opter pour ne pas vous laisser comme ça en plan pendant longtemps. On va vous proposer à la place un petit scénario que j'ai mené avec des membres de la communauté issus du Discord pour Shadowrun, qui s'appelle Rue des Ombres. Et nous avons donc fait une petite partie à la fin du mois d'août, qui sera conclue la semaine prochaine. Et j'ai donc commencé à préparer le découpage par épisode de cette partie. Et donc aujourd'hui, nous vous proposons le premier épisode. On va essayer de faire un épisode par semaine, donc tous les vendredis ou samedis, selon la charge, pendant les semaines à venir. Et une fois qu'on aura fini cette partie, on reprendra naturellement Netzgeviter. D'ici là, on aura eu le temps de s'occuper bien des épisodes qui restent à mixer pour Netzgeviter. Et bien voilà, donc bonne écoute. Je vous avais annoncé qu'on ferait un démarrage en media res. Eh bien, j'ai menti, on va pas faire un démarrage en media res. On va commencer avec le recrutement par Johnson. Bon, la raison est simple, hein, c'est que plus je réfléchissais au scénario, plus je me suis dit que vous risquez d'avoir des questions, vous avez des questions au Johnson que vous n'avez pas posées. Donc, je me dis plutôt que faire des flashbacks et tout, on va commencer par le début. Donc, notre histoire commence par une triste soirée de février 2082 à Seattle. Comme on est à Seattle, évidemment, il pleut. Vous avez réussi à vous faufiler à travers la ville et les différents embouteillages pour atteindre le nord de Seattle et vous rendre au Gravity Bar North, un bar célèbre à Seattle dans lequel vous avez rencontré un Mr. Johnson. Alors vous êtes des runners un peu expérimentés, on vous engage pas pour aller emmener un paquet de drogue d'un point A à un point B, on vous engage pas non plus pour aller casser la gueule à des gangers. Vous n'êtes pas des prime runners, mais on va dire que pour peu que vous soyez encore en vie dans 6 mois et que quelques prime runners ne le soient plus, peut-être que vous serez dedans. Et c'est pour ça que vous avez eu cette offre de boulot d'un Johnson étranger qui semble être un peu plus haut de gamme que votre Johnson moyen. Et donc vous arrivez au Gravity Bar North par cette soirée de semaine très lugubre. Alors je rappelle que pour ceux qui connaissent par cœur le guide de Seattle, le Gravity Bar North donne sur la baie du Puget Sound. Et en fait le bar est une sorte de en jeté au-dessus de la du Puget Sound. Donc quand vous arrivez, contrairement à mon image qui n'a rien à voir avec à quoi ressemble le bar, vous avez une vue imprenable sur le Puget Sound qui à cette heure tardive de la soirée émet une sorte de rougeâtre lumière. Et donc voilà, donc l'ambiance dans le bar est relativement calme, on est en semaine donc il n'y a pas beaucoup de monde et en fait à la table à laquelle on vous a donné rendez-vous, vous avez déjà votre client qui est là, enfin du moins vous imaginez votre client. Alors la quarantaine, une barbiche noire, un costard cravate qui vaut largement plus que l'ensemble de tout ce que vous avez gagné pendant vos cinq dernières runs. Tout dans sa attitude vous rappelle et vous rappellera pendant la discussion l'avocat. Le mec, on sent que c'est le mec, on sent que c'est un juriste dans sa manière de parler et d'agir. Donc il vous accueille très poliment, très gentiment pour un Johnson. Alors il a un accent, il a un fort accent français. Hello. Welcome at my table, dit-il avec son accent coupé au couteau. Et il vous installe autour. Et assez vite, après avoir démarré discrètement un générateur de bruit de fond, il a pris le choix de ne pas être dans un espèce. Généralement, vous vous mettez dans une sorte de ce qu'on appelle en anglais un booth, une alcôve, quoi, pour machin. Lui, il s'est mis plutôt dans la salle pour bien profiter de la vue du Puget Sound, ce qui est moins efficace en termes de protection contre l'espionnage, mais au moins il a une belle vue. Et donc, il vous offre des verres, il démarre son générateur de bruit de fond, et assez vite, après vous avoir vaguement fait de politesse, il embraye sur la mission qu'il vous propose. Alors, on va sauter ça, hein, mais généralement, un Johnson, nous pouvons vous offrir une mission un peu générique. Monsieur, madame, il s'agit de faire une extraction d'une cible hostile dans les 4 jours à venir. Là, vous dites oui ou non. Et puis, une fois que vous avez dit oui ou non pour le tarif qu'il a offert, là, il rentre dans les détails. Donc, on va passer cette case-là. On va considérer que vous avez trouvé avec lui un arrangement pour le prix de la mission. Et donc, j'embraye directement et il dit. Donc, comme je vous ai expliqué, il s'agit d'une mission plutôt atypique pour des runners. Paraît de ce que dans le métier on apparaît un background check. Il s'agirait de vérifier qu'une personne qui m'intéresse n'est pas de secret à cacher, n'est pas de squelette dans ses placards. Alors je vous cacherai pas que je travaillais pour un consortium corporatiste extrêmement intéressé pour recruter cette personne. Il vous dit ça de manière assez ouverte. Surprenant, généralement les Johnson sont un peu plus discrets. Mais bon, voilà, il a l'air un peu honnête, il a l'air un peu transparent, ou du moins il se fait croire transparent sur ce qu'il veut. Et donc il dit, voilà, cette demoiselle, en l'occurrence une jeune femme, une jeune elfe, qui est basée à Paris, travaille pour l'instant au service marketing d'un grand groupe français, du nom de LVMH, dans la mode et le marketing, imaginez l'ambiance. Elle intéresse beaucoup, elle intéresse mes employeurs, et avant de, disons, lui faire une proposition ou de l'amener à changer de poste, on voudrait être sûr qu'elle est, encore une fois, pas de secret ou de choses douteuses. Donc votre mission va consister seulement à vous rendre à Paris, je vais organiser pour vous le transfert, et à vous infiltrer dans son environnement. Alors la raison pour laquelle je sollicite un groupe de Seattle, c'est que la demoiselle est américaine. Je me suis dit que un groupe de runners de nord-américains serait peut-être plus adapté non seulement à infiltrer son environnement, mais aussi peut-être à comprendre les subtilités, il dit ça semi-sarcastiquement, les subtilités du psyché américain. Voilà. En bon français, il fait un grand sourire goguenard, parce que pour lui, la subtilité américaine, c'est le second moment, hein, donc voilà.
Je rigole doucement dans ma barbe pour entrer dans son move.
Moi, je regarde une grosse serious face, ça fait vraiment pas rire. Quoi.
je pouffe dans ma barbe.
Alors, étant convenu du tarif et étant convenu des paramètres de la mission, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à me poser ?
Que c'est une personne, elle est au courant, la personne, elle est au courant qu'elle va peut-être modifier, changer de recrutement ?
J'en doute, parce que c'est une discussion que j'ai avec, que j'ai avec ses supérieurs N+2, N+3. Je ne pense pas qu'elle ait été notifiée de son éventuelle promotion, disons-le comme ça. Donc oui, voilà.
Vous pensez que elle sera volontaire de cette promotion ?
C'est une autre question. Enfin, c'est une question que je laisse régler entre sa hiérarchie et elle. Mais par le passé, généralement, nos propositions ont toujours été bien reçues. Je pense que cette demoiselle devrait bien s'intégrer. Donc, vous n'avez pas vraiment à parler avec elle de son futur emploi. Mais je ne m'inquiète pas tellement du fait qu'elle accepte les propositions qu'on lui ferons.
Et quand vous dites infiltrer son milieu, vous entendez, on peut prendre contact avec elle. Il n'y a pas de... Quelle est la limite de ce qu'elle doit savoir sur notre présence auprès d'elle ?
Alors, la limite, c'est qu'évidemment, pour parler franchement, puisque nous avons des intérêts pour cette demoiselle, on aimerait que vous nous la rendiez dans le même état dans lequel vous l'avez trouvée. Voilà, donc je ne vous demande pas de la capturer, de la barbouiller de l'AS et de passer 5 jours à l'interroger. Vous pouvez tout à fait infiltrer son cercle d'amis si vous estimez que c'est la meilleure approche. Vous êtes des showrunners, vous avez probablement des moyens de violer la vie privée numérique des gens. Faites-le à volonté, ça c'est... Voilà. Idéalement, les paramètres sont que elle ne doit pas se douter que vous travaillez pour nous et que vous êtes en train de faire un compte-check. Enfin voilà, donc ça paraît évident, mais je préfère le dire. Elle ne doit pas non plus être effectivement nous introduit en mauvais état. Et ne pas douter, voilà, grosso modo ça. Le but, c'est que vous soyez vraiment une sonde invisible. Sachant qu'on est intéressé par tous les secrets qu'elle pourrait avoir dans sa vie, tout ce qu'elle pourrait faire qui serait, enfin voilà, tout ce qui pourrait nous causer des soucis, mais ça ne veut pas dire forcément, nous ne sommes pas là pour chercher du matériel de chantage. Hein, donc, si effectivement elle apprécie, comme tout bon jeune dynamique, un rail de Novako le samedi soir, quelque part, tant qu'elle reste fonctionnaire, reste d'aspect, on s'en moque.
Votre objectif, c'est de trouver les cadavres dans les placards. Et dans ce cas-là, c'est juste les informations qui vous intéressent, pas de la récupérer, elle, en personne.
Non, là, quand nous lui offrirons un contrat et que nous discuterons avec elle, nous ferons ça par nous-mêmes. Vous n'avez pas à la capturer, c'était pas une infiltration, hein, c'était un background check. Le travail d'infiltrer son environnement et puis de découvrir si elle a des choses à cacher et puis si effectivement elle... il y a plus que ce qui lui paraît. Pour être tout à fait honnête, au cas où vous ne l'ayez pas compris, notre inquiétude est simplement que, comme c'est une candidate qui nous plaît beaucoup, elle peut aussi avoir été mise là pour nous plaire. Et elle peut avoir aussi été, en anglais, groomée, de manière à ce qu'on ait envie de la recruter. Mm-hmm. C'est évidemment ça, c'est le pire scénario auquel qu'on espère éviter en faisant pas au service.
Comme un piège à mouche.
Exactement.
Parce que nous, en tant que personnage, on connaît LVMH.
Alors vous, en tant qu'Américain, il y a peu de chance, on va dire, surtout pour le nom LVMH. Mais bon, vos personnages ont accès à la matrice. Hein. Vous googlez LVMH et puis vous savez que c'est Louis Vuitton. Et puis j'ai oublié le reste. Hein. Enfin, en gros, c'est la marque Louis Vuitton.
Justement, j'étais en train de pianoter comme ça là sur mon comlink LVMH et je regarde le Johnson. Je lui dis la mode, c'est assez classe quand même. Vous fournissez les fringues de s'infiltrer dans l'état, enfin avec ce qu'on porte là actuellement.
Alors, il fait un petit sourire, c'est vrai qu'il remet en place son petit costard avec un petit air de genre, moi je suis bien habillé. Puis il vous regarde, il fait un petit périmètre. Alors justement, pour les auditeurs, l'occasion pour vous, je vais vous donner à chacun une narration dans l'ordre d'affichage sur Fonderie qui est le mien. Donc on va commencer par Particle Fouine, suivi de Salut et puis de Wisbo. Puis chacun à votre tour, vous allez décrire votre personnage, comment il est ce soir, à quoi il ressemble en général, pour un peu donner la vision de qu'est-ce que voit Johnson. Quoi.
Ok, parfait.
Eh ben dans le cas de Force, c'est pas très compliqué, c'est une tenue citadine assez classique avec un simple jean, un simple t-shirt et le blouson qui va avec. Et au niveau de son apparence, elle est relativement classique, mis à part qu'elle a des yeux cyber qui se voient un petit peu, mais sinon, voilà, elle est tout à fait banale.
Une apparence classique, ça veut dire que tu ressembles à Mozart ou
une apparence classique de la vie de tous les jours, de la rue.
Ouais, c'est ça, elle ressemble à Joe le plombier. Enfin, à part que c'est une orque quand même. Ok, alors du coup, salut à toi, à quoi ressemble Hank?
Là, il porte, donc il a une tenue, il est déjà de base, il est droit sur lui-même, donc il est toujours, on voit toujours à sa démarche et à sa façon de scanner les gens autour de lui qu'il est ancien militaire ou ancien force spéciale. Il possède, au niveau des cheveux, c'est une coupée iroquoise comme sur son image. Par contre, en termes de tenue, là, il porte pas son armure, évidemment. Il a plutôt une veste et on voit qu'elle est rembourrée et que dessous, c'est assez volumineux. Et au niveau de ses yeux, il a des grands yeux noirs et il n'y a pas de pupille. C'est des yeux type sont cybernétiques et ils sont type faucon. Voilà. Le rapport à son nom, ça fait sa partie de sa marque de fabrique.
Oui, Hawk Faucon. Et donc le dernier, c'est Wisbo.
Et donc moi j'incarne Hardpoint. Pour décrire Hardpoint, il faut se dire que c'est un nain rigueur de sécurité qui a eu une enfance relativement difficile. Il a été discriminé, il a été traité très injustement pour plusieurs raisons. C'est l'origine de ses parents, de métatypes différents, le fait qu'il soit méta-humain, nain qui plus est. Il n'a jamais réellement réussi à obtenir la reconnaissance de ses pairs, malgré le fait que, ayant grandi au sein de la AAA MCT, qu'on ne citera pas, Mitsuhama Computer Technology, il a quand même réussi à finir dans sa catégorie champion de Jiu-Jitsu, qui n'est pas rien. Néanmoins, il attendait de la reconnaissance de cette méga corpo, mais qu'il l'a relégué au rang de rigueur de combat réserviste. Dans leur corps de sécurité, qui a été pour lui la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est là qu'il a décidé de quitter la corpo pour rejoindre les ombres. Pourquoi je fais un flashback sur son passé comme ça, c'est que depuis, il a décidé donc de se négliger. Il en a marre, en fait, qu'on lui manque de respect. Il a décidé de se laisser pousser les cheveux, donc il est plutôt crasseux, aussi bien au niveau de la barbe que des cheveux. Néanmoins, ça reste quelqu'un avec des valeurs. Hardpoint est loyal, il laissera jamais tomber son équipe. Il donne l'apparence d'un petit garagiste de quartier de Redmond, mais en fait, c'est quelqu'un qui est très sérieux dans son travail. Soit il mène un boulot à bien, soit il le mène pas. Et voilà, il reste jovial. C'est quelqu'un qui aime bien l'efficacité. Et voilà, travaille dur pour entretenir ses engins. Donc face à vous, vous avez un petit nain un peu mal entretenu, avec un petit rafraîchissement pour aller chez le VMH.
Depuis qu'on est rentré dans le bâtiment, dans le Puget Sound pour aller discuter, enfin dans le restaurant du Puget Sound pour aller discuter avec le Johnson, et avec le, au fil de la conversation sûrement menée par Force, j'ai scanné les environs et regardé autour de moi pour vérifier s'il y avait des personnes qui nous observaient avec un peu plus d'intérêt que l'intérêt curieux, juste savoir si on était, s'il y avait ou ça peut être simplement des gardes du corps pour notre Johnson ou juste des personnes qui ne devraient pas être là.
Voilà. Alors fais-moi un petit test de perception pour ça, à moins que tu aies une compétence plus adaptée.
Non.
On va regarder. Deux. Alors, es-tu satisfait de ce niveau de succès ou de dépenser un point de chance? Ok. Alors, avec deux succès, t'as observé un peu l'entretien depuis, enfin, la scène et puis l'endroit depuis que vous êtes arrivé. Comme j'avais dit, le bar est assez vide, hein, y a pas beaucoup de monde. Et assez facilement, tu repères qu'il y a deux mecs au bar qui sont soi-disant en train de prendre un coup ensemble. Ils ont des des costards un peu élégants, mais qui sont comme par hasard des armures renforcées. Il y a une bosse au niveau de, leur poumon qui correspond à probablement un arrêt prédateur qui a été rangé là. Ils lancent discrètement mais régulièrement des regards dans la direction de votre table. Il y a eu deux fois où tu captes le regard de votre interlocuteur qui genre les regarde et puis acquiesce des yeux. Donc clairement, ce sont ces gardes du corps. Donc ça en soi, c'est pas une grosse surprise. Il y a deux gardes du corps. Sans dire qu'ils se cachent pas, ils font pas un gros travail pour se cacher, en tout cas de vous. Enfin, ils sont plutôt en train de vérifier que personne d'autre remarque qu'ils sont là. Mais voilà, ils sont là. Et alors, par contre, tu remarques aussi qu'ils vous surveillent un peu. C'est-à-dire que si à un moment t'as Hardpoint qui va mettre la main dans la poche, tu vois, dans sa poche, par exemple, pour chercher un mouchoir, un truc dans le genre, les gars du corps vont un peu se tendre pour être prêts à sortir leur flingue si jamais Hardpoint dégaine une arme, tu vois.
Logique.
Note aussi qu'il y a une jeune femme dans la pièce qui vous regarde, qui essaye, avec moins de succès que les deux gardes du corps, d'observer au loin la scène. Et en fait, elle a remarqué au moment où l'autre a démarré son générateur de bruit de fond qu'elle a fait une petite grimace à base de « Oh zut quoi !» Et en fait, elle semble très... Alors cette jeune femme doit avoir la vingtaine, une coupe au carré... un nez assez pointu, elle n'est pas sans charme, mais tout ce que tu remarques toi, c'est qu'elle est bien, elle sait bien se maquiller, elle sait bien se présenter, quoi. Voilà. Elle porte une tenue qui est une sorte de petit tailleur, et voilà. Et en fait, elle essaie de faire croire qu'elle est en train de regarder tout dans la matrice, donc elle tapote en réalité augmentée devant elle des choses, mais voilà, t'as percé son jeu, clairement, elle vous observe.
Ouais, je prends une image de cette personne discrètement et je la partage à mes collègues pour lui dire qu'elle nous regarde avec un peu trop d'attention.
Mmh. Oh, qu'est-ce que tu veux que je lui envoie un mini drone, un flyer spy, histoire de voir ce qu'elle est en train de faire sur son écran là.
Je pense qu'on voit pas.
Tu auras du mal sans arrêter de monter.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'en profite, est-ce que quand on discute entre nous, est-ce qu'on est en aparté et que c'est... enfin, je veux dire, on est en temps réel, on discute à l'écrit, etc. Et ils le voient que eux, et c'est pas les personnes autour.
Considère que dans le monde de Shadowrun, malheureusement, les gens sont habitués à ce que quand tu parles sur une table, il y a toujours des grands moments de silence parce que les gens se causent entre eux. Ils s'envoient spécialement quand tu dis avec un Johnson, ils sont habitués à ce qu'il y a un moment de silence pendant lequel les runners s'envoient des messages sur leur Discord interne avant de répondre à haute voix. Donc oui, vous pouvez vous envoyer des messages, et puis on est en DNI, hein, donc ça va très vite. Hein, ça prend une fraction de seconde pour vous de vous envoyer un message mental, entre guillemets.
Très bien.
Au niveau des questions, déjà, est-ce qu'il nous a donné son nom à cette personne qui est notre cible ?
En effet, pas encore. Elle s'appelle Eve. Eve Collins. Alors, je vais vous donner un petit dossier sur elle. Alors, il va vous donner un dossier dans lequel il y a vraiment des informations basiques. Je vous montre. Alors, il s'avère que comme j'ai utilisé le même... Ah non, c'est raté, faut que j'enlève ça. Je vous connais sa photo, mais comme j'ai utilisé le même programme de génération d'IA pour générer le bar que la demoiselle, vous allez voir qu'ils se ressemblent beaucoup les deux. Alors, hop.
Le bar et la demoiselle.
Ouais. Quand je vais poser la photo de la demoiselle sur le bar, vous allez comprendre ce que je veux dire. Du coup, désolé pour ceux qui écoutent, hein, ils ne sauront pas ce que je veux dire. Mais bon. Donc, elle s'appelle Eve Collins.
Ah ouais, je vois.
Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Okay. C'est le même moteur, c'est le même moteur de IA qui a fait le bar et le dessin de Mademoiselle. Donc Eve Collins, elle a même pas 22 ans, brillante jeune marketeuse de LVMH. Il y a une petite biographie, elle est née quelque part dans le Michigan. Alors pas à Chicago, juste voilà quoi. Vraiment la vie américaine classique, enfin personne de série américaine quoi. Penny dans Big Bang Theory, bon Penny vient du Nebraska mais pas. Mais voilà, petite bourse qui l'a amenée à faire des études. Elle sait bien. Alors c'est pas du tout. Faut pas en faire une sorte de star du système américain où elle aurait été à Harvard. En fait, elle a vraiment fait petite bourse, petite machin. Par contre, ce qui marque dans son dossier, c'est que elle a vraiment été, on va dire, successful. Effectivement, elle a commencé à travailler. En fait, vraiment à 21 ans, elle a commencé à bosser avec l'équivalent d'aujourd'hui, ce qu'on appellerait un BTS ou une licence. On dirait plus ça aujourd'hui, je crois que c'est encore un autre nom, passons. Et du coup, c'est là qu'elle a beaucoup bien marché. En un ou deux ans, bah, en fait, elle a vraiment bien cartonné. Elle a atterri quand par accident à Paris. Elle a été mutée à Paris il y a genre 8 mois. Elle devait suivre en fait sa patronne qui n'a pas pu aller à Paris. Donc c'est elle qui a récupéré le poste. Donc elle a été promue, ce que j'appelle une promotion de champ de bataille. C'est-à-dire c'est ouais. Comme le caporal est parti en deux morceaux, bah, c'est le lieutenant qui est chef.
Ouais.
Ou l'inverse, mais bon, voilà. Donc voilà, et en fait, elle s'est très bien débrouillée. Elle a Alors, c'est pas facile parce qu'en plus, dans le dossier, il y a marqué que, effectivement, bon, culturellement, les US, les Américains, les Français, c'est pas les mêmes manières de travailler. Mais elle s'est bien débrouillée, elle a vraiment lancé en quelques. Enfin, dans les 8 derniers mois où elle bosse pour LVMH, elle a vraiment eu des idées assez brillantes pour lancer des campagnes marketing assez. Qui ont bien marché, quoi. Donc, elle est identifiée comme étant assez efficace. Voilà.
C'est une elfe, comme on voit sur l'image.
Ouais, c'est une elfe, avec des oreilles pointues et tout.
Ok, j'imagine que juste en lisant son dossier, en parcourant son dossier, il n'y a rien qui pourrait sonner faux ou...
Alors, il n'y a rien qui pourrait sonner faux, de manière apparente. En fait, le dossier est assez propre, et quelque part, ça vous dit bien pour ça qu'il vous plaît pour faire quelque chose, c'est qu'il n'y a rien sur quoi tirer. Après, le truc que vous savez, vous, c'est que, bon, bah, la fille, elle vient d'un petit bled dans le Michigan. À moins d'aller physiquement dans son bled, montrer des photos pour vérifier que c'est bien elle, machin. Enfin, voilà, un faux signe du fin fond de Michigan, c'est une possibilité, ça existe. Après, dans les informations que vous avez, que je peux pas vous décrire, mais vous pouvez imaginer que peut avoir le Johnson et qui vous met dans son dossier, il y a quand même une sorte de contrôle de signe assez avancé qui semble dire que son signe est robuste et réel.
Voilà. Ouais.
On va dire que vous pouvez pas l'exclure à ce niveau-là, mais c'est pas le premier truc sur lequel vous pensez que vous allez tomber, quoi.
Ok.
Est-ce qu'il a des soupçons sur d'autres entreprises qui pourraient en vouloir à Louis Vuitton et qui auraient intérêt, du coup, à implanter cette demoiselle à plus haut stade ?
Monsieur Hawk, le marché du luxe, c'est un marché extrêmement compétitif, évidemment.
Impitoyable.
Voilà, L'Oréal se tire toujours la balle avec Louis Vuitton. Il y a, je ne sais plus quel autre dictateur qui est important dans le luxe, il y en a plusieurs. Oui, ça se chamaille bien. Sachant qu'en plus, en l'occurrence, L'Oréal comme Louis Vuitton font partie du consortium de la French Touch. Quelque part, sont amis et alliés. Ça ne les empêche pas de se tirer une balle, de se tirer la bourre. Et puis, évidemment, les triple A n'hésitent jamais à aller regarder dans les ressources brillantes des double A et des simple A pour faire leurs courses. Donc, il n'est pas du tout impossible que quelqu'un ait attiré l'attention de. Enfin, que Mlle Collins ait attiré l'attention de quelqu'un d'autre que nous. Malheureusement, à ce stade, aucune des informations qui sont parvenues à mes oreilles ne permettrait nous permettre d'identifier un potentiel intéressé. Voilà.
Il me parle un peu de toutes ces personnes qui se détestent, etc. Je lui dis, ça me rappelle le Yucatan et je déteste le Yucatan.
Alors, il fait un petit sourire amusé. Visiblement, il ne porte pas dans son cœur non plus le Yucatan ou l'Atslan. Enfin, en tout cas, le sujet semble pour lequel il acquiesce avec un air de je comprends. La bonne nouvelle pour vous, monsieur Hawk, c'est que vous ne serez pas au milieu de Paris, vous n'aurez pas les problèmes que vous auriez pu avoir dans le Yucatan. Vous en aurez d'autres. Vous n'aurez pas ceux de la jungle, de la forêt.
On s'adaptera.
À ce propos, vous avez des contacts sur place avec qui on pourra s'entretenir ou en gros, on se débrouille vraiment de par nous-mêmes pour infiltrer son milieu.
Alors, il fait un petit sourire. Il fait en cas de capture, le département d'État n'ira à toute implication.
Évidemment.
Bien évident.
Voilà. Non, l'idée est plutôt de vous. Est au contraire de ne mobiliser personne sur place, pas tellement pour vous rendre la vie dure, mais pour en fait vous faciliter votre couverture. Si personne ne sait qu'il y a des runners qui travaillent pour moi, dit-il sans dire qui il est, qui viennent s'intéresser à F. Collins, il y a beaucoup moins de chances qu'on vous repère. Le défaut peut-être, un défaut peut-être des Européens par rapport aux Américains est d'être beaucoup plus bavard, et malheureusement je crains que si je vous mettais à disposition des contacts locaux, par un effet de téléphone arabe, dit-il en français dans le texte, je crains qu'au bout de quelques jours, votre couverture pourrait être compromise. Donc cela dit, je vous laisse à disposition un numéro de Comlink pour me joindre si vous avez des précisions à avoir. Mais vous serez en gros seul sur le terrain. Par contre, je vous fournis non seulement le transport avec votre matériel jusque sur place, l'avion vous déposera à Charles de Gaulle, et je vous ai fourni des fausses identités un peu robustes. Vous êtes officiellement des agents de sécurité corporatistes, ce qui donnera... un peu plus de marge, enfin vous donnera à vous et à votre équipe plus de marge de manœuvre à Paris quand vous serez observé par Marianne. Marianne est légèrement plus conciliante avec les individus de sécurité corporatiste parce que leur activité, ben louche, sont généralement à des fins de protection.
C'est quoi Marianne ?
Il sourit, il fait « Ah pardonnez-moi, j'ai oublié effectivement que si ça n'arrive pas sur le sol américain, ça n'existe pas. » Depuis maintenant 3-4-5 ans, Paris est entièrement surveillé par un système matriciel extrêmement développé du nom de Marianne. Enfin, Marianne occupe plusieurs fonctionnalités au sein de la vie des Français, mais celle qui vous concerne aujourd'hui est la surveillance. Pour faire simple, absolument tout ce que vous allez faire à Paris sera filmé sur plusieurs angles. Tout ce que vous pourrez faire que dire sera enregistré et étudié. Et tout ce que vous pourrez faire sera aussi observé. Et tout ça sera traité par une armée massive d'agents matriciels qui appliqueront dessus des modèles de comportement. Donc grosso modo, si vous avez une couverture de touristes, que vous ne mettez pas les pieds sur un seul site de touristes pendant votre séjour et que vous vous comportez de manière extrêmement louche, et bien assez rapidement vous aurez affaire aux forces de Néopédie qui viendront vous poser des questions et s'intéresser à vous. Ou alors simplement Marianne demandera à vérifier votre signe et finira par le casser parce que vous avez un fossile.
C'est l'équivalent de Deus en France ou c'est plus particulier?
Eh oui, c'est le Deus français.
Alors, officiellement, dans le monde de Shadowrun, Deus n'est pas connu de tous. Hein. Il faut savoir que les horreurs de l'archéologie ne sont pas publiques.
Est-ce qu'il a des choses à nous dire? Est-ce qu'il sait des choses de ses habitudes et de sa vie perso?
Pas particulièrement. J'ai croisé Mlle Collins à une fonction publique il y a quelques semaines de ça. J'ai eu un échange avec elle assez sympathique. Une demoiselle est assez très intéressée, très vive. Un peu excité, c'est comme ça qu'elle nous apparaît à nous, français. Je dois admettre que c'était assez amusant de l'avoir évolué. Elle a ce qu'on va dire. Elle se déplace un peu involontairement comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc c'est toujours assez amusant de l'avoir évolué dans le milieu français et européen. Je l'ai trouvée plutôt charmante. J'ai cru comprendre qu'elle n'avait pas de petit ami ou de petite amie régulier ou régulière. Néanmoins, connaissant la culture de mes compatriotes, je suis persuadé qu'il doit déjà avoir une petite nuée d'abeilles qui tourne autour d'elle, mais ça, vous le verrez bien vous-même.
Est-ce qu'il y aura une possibilité, pour revenir sur la femme qui nous observe, là, est-ce qu'il y aurait moyen de lui poser un traceur ou quelque chose?
Oui, tu peux envoyer un de tes drones, t'as un flashpy, hein, tu peux lui coller un flashpy qui la suit. Enfin, si t'as un traceur, c'est pas comment, un sneak tag, enfin un stealth tag en français, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu peux lui passer ça, mais tu peux aussi juste poser ton flashpy au-dessus d'elle, hein, et puis dire que ton flashpy la suit, hein, comme tu veux.
Mais du coup, je le laisserai, sur elle pendant tout le truc, quoi.
Ouais. Ouais, bah tu l'as déployé sur elle et tu l'observes avec ton flashpy, tu la suivras pour voir ce qu'elle va ensuite, quoi.
Ok, bah je fais ça.
Ok.
Ça vous va les gars, j'envoie un fly spy sur la mienne.
Si vous n'avez pas d'autres questions, sans vouloir vous brusquer et vous forcer à finir vos collations rapidement, j'ai encore une longue soirée qui m'attend, j'ai plusieurs rendez-vous professionnels ce soir à faire. Mon passage à Seattle, qui est un des premiers, n'est pas exempt d'un certain agenda de ministre. Donc si vous n'avez plus d'autre à dire, je vais vous donner l'information pour... Enfin voilà, je vous envoie par la matrice les informations sur où prendre votre avion, où venir avec votre matériel à moitié illégal pour qu'ils soient marqués dans l'avion, enfin toutes les conneries qu'on va sauter ensuite pendant la narration.
En termes de véhicules, est-ce qu'on peut embarquer certains véhicules ou est-ce qu'on devra se débrouiller sur place?
Alors embarquer un véhicule à travers l'Atlantique n'est pas le plus simple, mais je vous inviterai, j'ai prévu un budget pour ça, à simplement louer un véhicule équivalent au vôtre à l'arrivée.
Je m'en occupe.
Voilà. Alors pareil, hein, soyez méfiant, enfin soyez conscient de que Marianne vous observe à Paris. Si vous garez votre van de runner, votre éternel Ares Roadmaster de runner, constamment devant des endroits où vous observez votre cible, enfin ça risque de se remarquer au bout d'un moment, quoi. Soyez un peu...
Peut-être qu'on prendra un véhicule un peu plus discret.
Peut-être.
J'ai le modèle parfait que je rêve d'essayer. Bon, ce sera l'occasion en étant en France.
Voilà. Très bien, profitez des merveilles de l'automobile française, hein, tant qu'il en reste.
Donc notre couverture, c'est agent de sécurité corpo, c'est ça?
Exactement, enfin, c'est ce que va lire Marianne sur votre signe en fait. C'est une couverture très faible, hein. c'est un faux signe qui est juste fait pour que Marianne ne s'intéresse pas trop en fait.
Ouais, pendant quelques temps et après on se débrouillera. Ok.
Exactement. Alors je rappelle pour ceux qui n'auraient pas lu Néo-Révolution que Marianne n'est que à Paris intramuros, c'est-à-dire que les Parisiens appellent le vrai Paris. C'est-à-dire qu'au sein du périphérique, dans les 20 arrondissements, dès l'instant où vous dépassez le périphérique, vous n'êtes plus observé comme ça partout. Par contre, au sein de Paris, effectivement, quasiment tous les appareils connectés à la matrice peuvent être utilisés par Marianne pour vous observer. Donc elle le fait en constamment sur plusieurs angles et elle processe ça pour remarquer éventuellement si vous avez des comportements louches.
Que à Paris, d'accord.
Que Paris intramuros, hein, et pas en banlieue.
Ok,
très bien.
C'est pas une attaque contre la banlieue, hein. C'est juste que pour vous donner un espace de survie, quoi. Vous pouvez quand même aller dehors pour vous faire machin imaginer. C'est juste pour limiter un peu le spectre. Et puis bon, c'est quand même un gros appareil de surveillance extrêmement paranoïaque, donc bon, c'est bien qu'il passe à partout, sinon voilà. Il y a quand même un coup derrière le fait d'avoir ce gros truc qui travaille, quoi. crois que j'avais écrit quelque part que en fait 80% des neurones de Marianne sont dédiés à la surveillance de Paris. Quoi. Donc, le système est sur l'ensemble de la enfin la, le système sert pour toute la France, mais 80% du CPU c'est que pour gérer la surveillance à Paris. Ok, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut. Alors, est-ce que vous voulez faire quelque chose par rapport à la petite meuf qui vous observe, ou est-ce que vous allez juste la suivre et on fait une transition sur la suite?
Sur le truc, je voulais faire vite fait une recherche sur la femme au niveau du faciès dans la matrice, à quoi ça, si ça ressemblait à quelqu'un qui était connu, notamment avec les mots-clés mode et comme ça. Et à côté, juste le Johnson aussi, notre Johnson, simplement. C'est pas spécialement connaître son nom, mais savoir un peu, se connaître son nom.
Alors, c'est super simple, Johnson, il est effectivement très public, c'est pour ça qu'il s'est à peine caché. En googlant, en prenant sa tête et en la mettant dans la matrice, tu trouves assez vite son nom, c'est Hugues Fauchon, l'avocat fondateur de la French Touch, donc l'un des mecs qui a fondé le consortium à l'origine. Et donc, effectivement, voilà, pour le coup, t'as sa biographie, hein, voilà, donc c'est un avocat qui a fait sa carrière chez Indexaxa. Avant Indexaxa, en fait, c'est un ancien de STV, pour ceux qui connaissent STV, donc qui est un cabinet d'avocats... de Schlöderen qui est assez connu, donc il a fait ses premières années de marque chez STV, il a quitté STV pour rejoindre Indexaxa, dont il est devenu le directeur juridique assez rapidement. C'est un avocat assez brillant qui est connu pour il sait très bien utiliser les armes juridiques, et en fait souvent les opposants d'Indexaxa préfèrent en fait négocier un deal qu'aller au procès avec lui. Alors, quand on leur dit ok, mais ça sera Fauchon qui va faire le procès, on leur dit ok, c'est bon, vous voulez combien? Donc voilà. Et c'est l'un des architectes du consortium de la French Touch avec donc son partenaire de crime qui est Adrien Sora. Bon, ça pareil, c'est du lore de Shadowrun, je vais pas m'étaler là-dessus. Enfin, du lore de Neurovolution. Et donc voilà, il s'en est pas caché finalement. Vous pensez qu'il représente la French Touch ou alors Indexaxa? Et quant à la meuf qui vous observe, c'est bêtement une petite journaliste de Seattle qui ne fait pas dans la mode, mais plutôt dans le business. Et elle a une sorte, c'est vraiment, enfin, elle a l'équivalent d'une, on dirait une colonne, tu vois, elle a sa colonne qui est son blog qui sort tous les jours, sponsorisée, enfin, elle doit avoir un signe partiel chez Horizon, donc c'est vaguement sponsorisé par Horizon, puis elle fait sa journaliste économique. Et donc voilà, et en fait, visiblement, elle a commencé à bloguer, qu'elle essayait de suivre la visite de Monsieur Fauchon à Seattle, et pour savoir ce qu'il vient faire et négocier des trucs. Et donc voilà, elle a commencé sa petite biographie sur lui, quoi. Alors, heureusement, elle n'a pris aucune photo de vous au Gravity Bar North, parce que bon, le Gravity Bar North veille à ce que le respect de la vie privée de ses clients soit respecté.
Ouais. Pas trop inquiétant.
Ok.
Alors, si vous avez rien d'autre, on va faire avancer chez Blic, comme disait l'autre, et on va faire une transition. Alors, fondu au noir, il s'est écoulé à peine 24 heures. Dans les dernières 24 heures, vous avez atteint l'aéroport de Seattle, du SeaTac, vous avez pris vos montées au patel à bord de l'avion, vous avez pris l'avion affrété par Fauchon pour vous, vous avez fait le vol transatlantique, probablement en semi-balistique d'ailleurs. Je crois qu'il y a un semi-balistique à Paris, donc passons. En gros, vous êtes arrivé très vite à Paris. Mais alors, vous êtes complètement jet-lagué, quoi. C'est-à-dire que vous êtes là, il est 10h du matin à Paris, donc vous êtes en février à Paris. Hein. On peut dire qu'il fait pas très beau, mais il pleut quand même toujours beaucoup moins qu'à Seattle. Les Bretons diraient qu'il bruine, donc il pleut quand même un peu.
Il pleut pas, il bruine, comme dit le rumeur.
Plus quelle personne sur la télé a plus de 3000 mots pour décrire les poitrines des femmes, les Bretons, ils ont plus de 3000 mots pour décrire la pluie. Donc du coup, voilà, donc il fait un temps qui est pas dégueulasse, mais qui est pas magnifique. On est en février, il y a un vent un peu froid. Et donc, il faut imaginer, vous trois, vous êtes des runners, plus ou moins habillés comme vous êtes habillés, ou plus ou moins en touriste. Vous êtes sur les Champs-Élysées à Paris, donc c'est quand même pas du tout, on est loin des Barrens de Seattle, c'est pas vraiment votre environnement. Enfin, vous êtes à côté des Champs-Élysées, parce qu'en fait, le quartier général de LVMH est au 22 rue Montaigne. Et dans le briefing, il vous a dit, elle travaille au 22 rue Montaigne. Et apparemment, souvent, elle déjeune dehors. Donc, vous êtes arrivé. Il est 11h, 11h30, et vous avez pris, vous êtes posé à un café qui est en face du 22 rue Montaigne. Vous avez payé un prix absolument exorbitant pour un Renault de Seattle, pour genre deux cafés crème et un croissant, servi par un mec qui vous a pas dit grand chose et qui vous a juste répondu avec l'éternel French shrug. Hop, voilà, comme l'écrit un de mes collègues anglais, parlant d'un client. Et donc voilà, et voilà, pour vous, vous savez pas si c'est le matin ou le soir, mais vous avez envie de dormir, vous êtes coupons d'être la guerre, puis vous regardez un peu cette vie un peu surréaliste de Paris, quoi. Encore une fois, pour vos runners, c'est des paysans. C'est bourré de touristes, il y a pas de monde dans les rues. Et puis surtout, vous êtes conscient du fait quand même que, où vous soyez à Paris, on vous observe, hein, c'est quand même assez... vous vous êtes rendu compte dès que vous êtes arrivé à l'aéroport. Et ça s'est renforcé quand vous êtes à Paris. Alors vous voyez aussi souvent voler au-dessus des rues ces espèces de drones noirs avec un petit globe rouge à l'avant, qui sont en fait des drones déployés par Neopidi pour surveiller Paris. Vous voyez d'ailleurs sur l'illustration que j'ai mis en fond de l'écran, bah, l'uniforme un peu. Alors malheureusement, Giletti a un peu forcé le trait. Ils sont pas si martiaux que ça, les mecs de Neopidi. Ils ont plutôt des uniformes de policiers plus sympathiques que ça. Mais bon, ils sont quand même bien équipés. Et donc voilà, enfin vous, en tant que runner, vous voyez quand même que vous êtes dans un endroit où on vous observe avec beaucoup d'attention.
En termes d'armement, est-ce qu'on a pu faire passer des choses ou est-ce que on a dû venir à poil?
Alors ça, c'est à vous de choisir si vous avez opté de venir avec ou sans vos armes. C'est clair que c'est beaucoup plus prudent de venir sans vos armes, d'avoir laissé vos armes dans la voiture par exemple, d'avoir mis vos armes dans le coffre dans la voiture et puis de la rassembler dans la voiture, parce que c'est clair que entre le fait que Marianne va avoir accès à votre poids quand vous allez traverser la rue sur les passages piétons, ou le fait que Marianne, sur tous les angles, va remarquer qu'il y a une bosse dans votre truc, enfin voilà, Marianne saura que vous avez des armes, elle saura même probablement que vous avez des cyberwares. Alors la bonne nouvelle, c'est que Marianne va pas appeler la police au moins de trucs louches, évidemment. Mais bon, plus vous accumulez dans l'algorithme des points, au bout d'un moment, vous attirez. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez pris le risque de garder vos armes sur vous? Est-ce que vous avez gagné qu'un flingue? Ben voilà, à vous de me dire.
En termes de l'or à Paris, c'est normal pour les gens d'avoir des armes sur eux ou pas?
Non, alors ça c'est vrai depuis Shadowrun France, enfin Shadowrun Shadow of Europe, hein, la France, dans Shadowrun, elle est comme dans la France aujourd'hui. Il n'y a pas de port d'armes en France, c'est très rare d'avoir une arme à feu sur soi en France. Les tasers, ça peut exister, etc. Mais à part les gens de sécurité et les flics et les runners, quasiment personne n'a d'arme à feu. Puis les gardes du corps aussi.
Je pense, pour moi, je suis champion de Jiu-Jitsu, donc je vais rester à main nue tranquillement. Par contre, j'ai mes drones, bien sûr, qui sont dans la voiture, au cas où. Et à propos de voiture, je tenais à vous dire, les gars, qu'on s'est loué un beau van Volkswagen ID Buzz, j'en rêvais.
Bonjour, à discrétion.
Cela dit, discret. Non, je l'ai pris noir, les gars, on va dire.
Genre les vannes de Mini Black, la discrétion comme ça.
Voilà.
Très bien. Moi, en termes d'armes, bon sang, j'ai mes lames cybernétiques, c'est pas comme ça, on pouvait les enlever. Non, mon corps est une arme, je vais rester. C'est-à-dire, je vais être sans. Mes armes resteront dans le coffre de la voiture.
Non, bah, force, pareil. Elle pense pas en avoir spécialement besoin, et puis vous êtes là pour ça aussi.
Oui, c'est vrai.
De manière amusante, Force renonce au second armement. Elle aime beaucoup le quatrième, elle aime moins le second. Ok, donc du coup, très bien, donc vous êtes weaponless plutôt que armless. Et donc, vous êtes en face du café. Alors, ce que vous faites, vous voulez 11h, 11h15, 11h30, vous ne savez pas très bien quand est-ce qu'il y a une pause déjeuner. On va dire que Hardpoint a quand même déployé un fly spy de manière à avoir une vue un peu. Enfin, vous avez une caméra qui filme l'entrée du bâtiment de LVMH. Voilà, qu'est-ce que je vous laisse discuter de comment vous allez opérer, quoi. Vraiment, je vous ai redéposé là où vos personnages reprennent un peu leur esprit et ils vont pouvoir commencer à réfléchir à ce qu'ils vont faire, quoi.
Bah toi, du coup, Force, tu es plus apte à interviewer les gens sur la personne que nous recherchons ou peut-être de façon générale. Je sais pas si tu peux te désigner directement en disant je cherche elle, ou plutôt tourner un peu autour et voir où ça mène. Moi, mon personnage. Dans le genre je vais taper des gens mais là je suis pas sûr que c'est la bonne strat.
La difficulté ça va être de faire tout ça, enfin de faire les choses en maintenant un peu de couverture, c'est surtout ça.
À moi, quoi qu'il arrive, j'ai mes deux drones MCT Fly Spy, j'en ai un forcément qui, comme l'a très justement dit notre GM, surveille l'entrée du bâtiment pour nous alerter quand elle sort pour faire une éventuelle pause, etc. Et l'autre qui essaie de prendre un peu plus de hauteur pour voir si est-ce que je pourrais avec un des deux drones l'apercevoir à une fenêtre dans son bureau, parce que c'est bien ça, c'est bien le bâtiment où elle travaille.
Ouais, alors moyennant un petit jet de perception, tu peux déployer ton drone, faire le tour des fenêtres et puis voir si tu remarques la demoiselle par quoi. Ouais.
Je vais faire ça.
C'est l'œil qui est en dessous de Parma, en tout total même.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter pour les drones? Je ne crois pas.
Non, ils ont furtivité, mais ils ont pas perception. Enfin, je crois pas, c'est marqué de...
Non, ouais, ils ont furtivité, ouais. Ils ont furtivité plus 4D. Ah, perception plus 2D, si.
Ah bah si.
Donc là, on est logique 6, volonté 3, et donc je rajoute 3, et je rajoute...
Non, autre modificateur.
Autre modificateur, c'est ça. Et donc là, plus 2. Ouais, c'est ça.
Ouf.
Ça nous fait donc...
Ah bah 6 succès. Alors ça, je me rappelle, j'ai oublié qu'en fait dans Anarchy, normalement, je l'ai pas fait tout à l'heure, je suis supposé jeter les dés parce que normalement il y a toujours une difficulté et une opposition. Donc je vais lancer. C'est relativement facile, donc je vais en lancer 6. Comme tu as fait 6 succès, ça va être rien pour toi. Et comme j'ai fait 1 succès, effectivement, ça se passe très bien. Tu as fait 5 succès de marge. Et du coup, je vais vous mettre, je vous fais un petit board pour montrer à quoi ressemblent les bureaux de LVMH aujourd'hui. Donc vous pouvez imaginer à quoi ça ressemble dans le futur. Rajouter un peu de réalité augmentée et puis mettre un peu de chrome, comme dirait l'autre. Donc ouais, l'avantage, c'est que c'est assez facile de passer le Flying Spy devant les fenêtres. Alors il est tout petit, donc même Marianne aura du mal à le remarquer, entre guillemets. Et de passer comme ça par les fenêtres, une par une, pour scanner les étages. Et sans trop de difficultés, tu la trouves au troisième étage. Elle est en pleine discussion. Alors, tu n'entends pas à travers la fenêtre. Hein. Elle est en pleine discussion avec une femme qui a l'air d'être un peu plus âgée qu'elle, une Française blonde, qui semble pas... Alors, effectivement, Eve Collins, elle est marrante, elle est souriante. Tu vois, c'est une petite meuf un peu sympathique, très américaine. Everything is awesome, everything is super. Et elle, bah, en face, elle a affaire à vraiment la Française bien... sarcastique, enfin, elle a pas une cope à la bouche, mais il lui manque plus que la cigarette à la bouche, qui la regarde avec un air un peu genre, ok, qu'est-ce que tu veux, gamine, quoi. Et tu vois bien que, enfin, tu remarques bien avec le Spy Spy que, bon, le courant a l'air de mal passer déjà, ou de pas passer très bien entre les deux. En électronique, on dirait qu'il y a un problème d'impédance entre les deux, et vraiment, ça fonctionne pas très bien. Ça se voit très vite. Visiblement, il y a un échange, enfin, Eve lui dit un truc, l'autre a pas l'air de comprendre, elle répète. Finalement, elle s'énerve un peu, celle qui doit être sa supérieure se lève, gesticule quelque chose, et tu comprends par contexte que, visiblement, elle veut continuer la discussion, mais il faut bouger. Et en fait, tu réalises qu'elles vont sortir pour déjeuner, en fait, et qu'elles vont aller déjeuner ensemble pour continuer à parler du sujet qu'elles évoquaient ensemble.
Ok, ça sent l'échange, mais en mode rivalité, de jalousie.
En tout cas, sa supérieure, pour l'appeler comme ça, doit avoir un certain agacement envers elle, quoi. Il y a un truc sur lequel, voilà.
Bien sûr, les gars, je vous partage ce que voit le drone.
Si on fait une petite recherche avec le visage de cette fameuse supérieure, est-ce qu'on trouve quelque chose ?
Là, on tombe sur une question de meneur plus qu'une question de lore. Moi, je considère que autant les personnes publiques, c'est facile de savoir ce qui se passe. Par contre, tous les employés corporatifs sont un minimum prudents. Il va falloir aller hacker P2 pour pouvoir récupérer des photos de gens de leur compte, quoi. Donc là, sur elle, non, c'est pas quelqu'un de public. Donc elle et Collins, non, pas de photos, quoi. Donc voilà, donc les deux demoiselles, enfin les deux dames sortent du bâtiment de LVMH quelques instants après que tu les aies pris, que tu les aies aperçus avec ton drone. Et effectivement, Collins semble un peu suivre sa supérieure qui pour l'instant s'en va occuper à lui balancer un flot de parole. Alors toi, t'as le Flash Spy, tu descends pour vloom pour les suivre. Et en gros, alors, on va dire que vous êtes américain, mais vous avez des autosoft, hein, donc tout ce qu'elle raconte, il est traduit à la volée par vos autosoft. Visiblement, elle est un peu en train de faire la morale à Collins, qui vit à pas respecter les procédures, machin. Elle dit, écoutez, Eve, un jour, il faudra que vous apprenez un peu à respecter... la manière dont on fait les choses. Ici, on n'est pas au Texas, mademoiselle. On ne dégaine pas son pistolet à tout bout de champ pour régler des problèmes. En gros, Eve, elle est un peu toute gênée. Elle dit ah oui, pardon, madame Gauthier, vous avez bien raison. Mais j'ai quand même réussi. Oui, non, mais d'accord, vous avez réussi, mais c'est quand même pas une bonne manière de faire les choses. Voilà, vous voyez un peu le genre de débat qu'elle peut avoir. Ouais. Et elle se dirige toutes les deux vers un petit restaurant au coin de la rue. Typique, quoi. Enfin, comme on voit des milliards à Paris, où elles vont commander leur éternel confit de canard au soja, quoi.
Au soja, comme d'habitude.
Bah, dans Chaudorin, tout au soja, hein, donc.
Effectivement, donc là, du coup, c'est là où elle travaille. Ce serait savoir où est-ce qu'elle habite. Donc, du coup, l'idée, ça serait plutôt de rester en planque pour jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle et qu'on ait l'endroit où elle habite.
Ouais. Est-ce qu'on les entend échanger sur... elles parlent pas forcément que de ça, j'imagine. Est-ce qu'elles échangent autour d'un événement à venir auquel elles vont participer, une réception, est-ce que le drone arrive à capter ce genre d'informations?
Alors, pas pour l'instant. Si, on va considérer que... Enfin, vous bougez pas. Vous observez le repas pour l'instant, vous bougez pas, donc je vais avancer un peu. Alors, au début, elles arrivent, elles commandent à manger... F commande une salade, l'autre commence un confit de canard. Elle roule des yeux quand elle voit qu'elle commande une salade et qu'elle verse de la sauce burger sur sa salade. Eve essaie d'être sympathique avec elle, mais bon, voilà. L'interaction est un peu Eve sourit, essaie d'être sympa et l'autre roule des yeux, quoi. C'est un peu l'échange. Mais effectivement, mais il n'y aura pas. Il y a le téléphone, enfin le comlink de Connie qui s'allume. Et alors, dès l'instant où en gros, son interlocuteur, donc Vanessa Gauthier, vous allez apprendre son nom dans la discussion, dès l'instant où son interlocuteur réalise que son téléphone sonne, elle lui lance un regard extrêmement noir, mais. Alors, avec le facepalm, vous voyez l'instant où Collins considère de ne pas décrocher le téléphone, mais visiblement, elle le fait quand même et dit oh, « Je suis vraiment désolé !» Puis elle se lève et puis elle s'éloigne un peu du restaurant pour prendre son appel sur son comlink. Alors, évidemment, elle ne décroche pas son comlink, elle a un data jack. Et donc, vous ne voyez pas, mais en arrière, il y a son interlocuteur qui apparaît devant elle. Comme vous n'avez qu'un bout de l'échange, et en plus, si Collins parle quand même à haute voix, parle quand même au téléphone aujourd'hui encore à haute voix, elle dit « Ah, d'accord, tu peux venir ce soir ?» Ah bah oui, bien sûr, un peu surprise, elle a l'air un peu surprise, Collins. Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle. Ah bah d'accord, vous me récupérez comme prévu, super, et puis elle fait un sourire. Voilà, je vous demande à tous de faire un petit test de Judge Intention. Pardon, de juger les intentions. Juger les intentions, désolé, le petit masque dans la fiche.
Et sur les fiches, peut être en français, ça c'est vachement bien. Donc c'est vrai qu'ils sont bien traduits. Tu lis en elle, comme un livre ouvert.
Bah sinon, vous avez tous réussi en l'occurrence, et alors toi, Force, t'as très bien réussi. Alors, avec vos trois succès, Hardpoint et Hawk et Hank, vous vous rendez compte vraiment que, effectivement, la scène que je vous ai décrite avec Collins et sa boss, clairement, le courant passe pas. Collins, c'est pas forcément, a pas de sentiment négatif envers sa boss, elle essaie de lui faire plaisir, mais vous voyez vraiment que Gauthier l'aime pas du tout, quoi. Ça, c'est vraiment, c'est intégré. Toi, avec six succès, Force, donc t'as compris cette dynamique. Mais t'as aussi réalisé que, quand elle a reçu le coup de téléphone et que quelqu'un lui a dit « Ouais, je viens ce soir », elle a quasiment retenu un sursaut. Ça a été une surprise. Elle a réagi comme si on lui donnait une tuile. Et quand elle a fait « Ah ouais, super, on se voit ce soir », c'était que bon fake, quoi. C'était vraiment... Je sais pas si ça lui casse les pieds, si ça lui casse ses plans, si ça change des trucs pour elle... Mais le fait que cette personne l'appelle pour dire je viens soir, ça n'arrange pas du tout Collins.
Ok, mais c'est pas de la peur, c'est plus ennuyé.
Il y a un petit peu de peur, mais c'est pas de la peur, genre j'ai peur de mourir, quoi, tu vois. C'est genre ah merde, ce soir ça va être chiant, quoi. Tu vois, il va y avoir un truc. Enfin, il y a, quand t'as fait ce succès, je te le dis, hein, il y a une notion de peur, mais c'est pas une peur de je vais me faire tirer dessus, quoi. C'est genre ah merde, elle vient, mais qu'est-ce qui va se passer? Ou il vient, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi, tu vois.
Ok.
Et du coup, c'était une conversation en français, j'imagine ?
Pas vraiment, en fait. Vous savez pas comment a parlé l'interlocuteur, mais Collins a répondu en anglais.
D'accord.
Intéressant. Ok.
Alors là-dessus, c'est l'histoire. Hein, le dîner se finit. Chacun prend un petit dessert et après une crème brûlée, elle rentre au bureau. Alors peut-être que le fait d'avoir mangé a un peu adouci Vanessa, qui est moins agressive avec Collins. Elle reprend leur discussion de business et tombe d'accord sur le fait que, malgré les 143 bévues que Collins a commis dans la gestion du compte de machin, c'est quand même elle qui va reprendre le dossier, parce que mine de rien, même si Gauthier le reconnaît à travers ses dents, elle a quand même fait du bon boulot, quoi. Et donc voilà, alors...